IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, il est l'heure d'accueillir un nouvel invité avec Jean-Pierre Hidat, auteur et créateur de la compagnie Trois Chardons. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Une maison d'édition, mais surtout des spectacles jeunesse. Hein, dans un premier temps, vous avez démarré au début des années 70.
Voilà, tout à fait, en 73.
73 plus exactement, à proposer des spectacles plus dans les écoles et ensuite auprès du grand public. Mais il y a une démarche quand même très précise et particulière au début quand vous créez cette compagnie.
Voilà.
Racontez-nous un petit peu son histoire et son origine.
D'accord. Alors, donc de mon côté, j'ai toujours réalisé des spectacles pour enfants, de marionnettes, au départ de marionnettes traditionnelles avec un castelet, marionnettes à gaines. Depuis que je suis tout gamin, je monte des spectacles à n'importe quelle occasion. Et j'ai même donc j'ai monté progressivement des spectacles de plus en plus professionnels, disons. Et pendant mes années d'études dites supérieures, j'ai organisé des tournées avec des amis, donc dans les colonies de vacances, des spectacles déjà qui étaient un peu structurés, quoi, avec des tournées un peu sérieuses et bon. Et à la fin de mes études, s'est posé la question, j'ai fait des études de psychologie de mon avenir et j'avais pas très envie de me couler dans le cursus traditionnel, disons, de ma profession de psychologue, donc. Et donc je me suis dit, je vais essayer de vivre de ma passion. Et donc j'ai analysé un petit peu ce qui se passait dans les écoles pour savoir comment réaliser faire tenir une compagnie sans financement. Ça, c'était important pour moi. J'avais aucunement l'intention de faire les couloirs de ministère. Je sais pas faire ça pour obtenir des subventions qui sont très aléatoires et qui, quand elles disparaissent, elles vous font tomber. Mais quelle que soit la qualité de vos productions. Donc déjà, j'ai modifié pas mal au niveau des spectacles. J'ai innové, disons, d'habitude les spectacles pour enfants qui tournaient marionnettes dans les écoles, c'est tourné toujours avec deux interprètes, deux marionnettistes. Et là, je me suis dit, on va tourner avec un seul comédien ou une seule comédienne. Pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de responsabilité, j'avais pas très envie de faire tourner des comédiens qui se connaissent pas pour aller tourner pendant 2 mois à Bordeaux.
Mais au début, c'est bien vous qui le faisiez quand même.
Alors, les tout premiers spectacles, c'est moi, mais
tout premier. Et donc, comme ça a grandi, vous avez décidé de prendre d'autres comédiens à vos côtés.
Ah, mais c'était le projet dès le départ. Alors, les spectacles, donc, avec un seul comédien ou une seule comédienne. Des spectacles avec des participations des enfants qui participent par le geste, par le chant, etc., qui sont pas passifs, disons, et des spectacles aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et des spectacles aussi où on fait sortir les marionnettes. Donc on fait sortir les marionnettes du castelet, donc ça permet d'avoir des marionnettes qui sont pas figées dans le cadre de la lucarne du castelet, donc des marionnettes qui peuvent être très grandes, très grosses, très petites.
Et expliquer du coup aux enfants comment elles sont fabriquées, confectionnées, comment vous les animez.
Alors c'est nous qui les créons, donc avec nos décorateurs, et donc les marionnettes sont réalisées par les ateliers des Trois Chardons, voilà.
Avec des matériaux recyclés aussi à l'époque un peu.
Non, avec des matériaux traditionnels pour réaliser les marionnettes.
Vous achetez du tissu.
Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors maintenant au niveau de l'organisation de la compagnie, il est bien évident que tourner dans les écoles c'est toujours des petits effectifs, c'est une centaine d'enfants à peu près, et puis des petites recettes. Donc faire vivre une compagnie, personnellement je me voyais pas jouer, c'est pas du tout, je sais pas faire ça, je sais monter un spectacle, jouer une dizaine de fois et puis après le passer à quelqu'un d'autre. Donc il fallait l'objectif pour encore une fois pour équilibrer les finances d'une telle compagnie, il fallait démultiplier le nombre de décors. Donc alors j'ai commencé avec la première année avec quatre décors, donc quatre comédiens, et puis progressivement ça a monté et on est arrivé à une bonne trentaine de comédiens qui présentaient donc chacun seul le même spectacle au même moment mais à des endroits différents, donc ce qui permettait d'équilibrer l'activité. Voilà. Ça s'est beaucoup développé. À un moment, on jouait énormément dans les écoles. On jouait plusieurs milliers de spectacles. Et toujours encore, aujourd'hui, mais on est à peu près à 2000 représentations par an. Donc, 2000 écoles visitées, quoi.
Vous avez toujours aimé, en tout cas, aussi écrire.
Alors, de mon côté, effectivement, oui.
Parce qu'il faut quand même écrire des spectacles avant de les présenter.
Voilà, tout à fait. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est effectivement l'écriture, l'invention de titres, de l'imaginaire, quoi, disons.
Et cette imagination débordante, vous l'avez déjà depuis très jeune, tout petit, à créer déjà dans votre univers, dans votre chambre, des scénettes particulières ou pas?
Oui, enfin c'est surtout par les Trois Chardons. Au début, j'ai cherché à adapter des contes traditionnels, et puis vu la diffusion que je voulais appliquer à la compagnie, et avec un seul comédien, etc., un seul intervenant, je trouvais pas, et puis les thèmes correspondaient pas, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer moi-même, alors qu'à l'origine j'avais aucune intention d'écrire, hein, disons. Hein. Alors j'ai été contraint forcé, disons, d'écrire le premier spectacle, Pitou l'enfant roi, en prenant comme origine non pas le personnage de Pitou, mais comme d'ailleurs pour tous les spectacles, un personnage qui souvent est un peu anecdotique. Dans Pitou l'enfant roi, il y a donc trois dragons, dont un dragon qui est un serpent. Mmh. Et donc, ce qui m'a donné l'idée de ce spectacle-là, c'est une marionnette manipulée par un animateur sur un trottoir boulevard Saint-Germain avec un serpent dont le corps était réalisé en papier, en accordéon, et manipulé de façon assez qui m'a vraiment beaucoup touché. Et je me suis dit, tiens, on va partir de ça. Et après, sont venus, je pense, les deux autres dragons, puis le Pitou, puis des petits personnages accessoires, disons, l'oiseau.
Les deux autres dragons, donc c'est un dragon avec des ailes, et puis un dragon un peu crocodile.
Voilà,
qui vit dans l'eau.
Un dragon des mers, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, c'est comme ça que naissent les spectacles, disons, et puis c'est au fur et à mesure, ma foi, faut faire travailler, laisser libre cours à l'imaginaire. Au début, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez confus. Il y a énormément de choses qui viennent, beaucoup d'idées. Et puis l'important, c'est que une fois que toutes ces idées sont ramassées ou ça fait un peu bloc, à ce moment-là, il y a tout un travail où il faut élaguer, simplifier et arriver à quelque chose d'extrêmement concis. Et c'est ce qui fait, à mon sens, la force de nos spectacles, c'est que ce sont des spectacles qui sont très très concis, effectivement, et on ne se perd pas dans les détails, etc. C'est uniquement à l'essentiel, quoi.
Vous êtes originaire de Nancy, donc vous ouvrez un premier théâtre aussi à un moment donné chez vous.
Alors, c'est...
ou pas, pour développer cette activité de la compagnie Trois Chardons.
Voilà, tout à fait, pour permettre aux parents de voir les spectacles que l'on présente dans les écoles de leur enfant. Donc le premier théâtre a été ouvert de façon provisoire à Nancy, puis donc essentiel à Paris, donc qui est le siège de la compagnie, et maintenant un troisième à Nantes. Voilà.
Donc ces trois théâtres ont le même nom, La Cachette.
La Cachette.
En 1999, donc il y a le théâtre La Cachette à Paris. Donc on l'a dit, hein, ça naît effectivement dans un premier temps de l'envie de faire découvrir de belles histoires, des spectacles dans les écoles, et puis d'ouvrir des théâtres, et la maison d'édition finalement de la compagnie.
Alors, la maison d'édition...
Parce qu'après vous éditez des livres CD,
voilà.
Hein.
Voilà, tout à fait. Donc les livres sont nés à peu près 3-4 années après la création de la compagnie, pour prolonger le spectacle, pour leur donner aussi matière à durer, et également pour permettre aux parents de se rendre compte de des histoires qui étaient racontées à leurs enfants. Donc ces livres sont proposés, donc sont distribués, offerts aux enseignants dans les écoles, et ils sont disponibles donc aux parents par VPC, et on a une petite diffusion en librairie. Voilà.
Vous êtes aussi présente de temps en temps, même voire régulièrement, sur des salons, et notamment le livre jeunesse à Montreuil.
Voilà, tout à fait. Donc on est
chaque année.
Non, on est revenu à Montreuil cette année après longtemps d'absence. On a été participant des tout premier salon de jeunesse à Montreuil, et puis le salon étant devenu quelque chose de plus l'informatique, les nouveaux moyens de communication, etc., et plus pour des enfants plus grands, disons pas adolescents, on l'avait un peu abandonné. Mais là, on y est revenu avec plaisir, et on a retrouvé nos spectateurs qui nous redécouvraient, etc.
Vous êtes venu dédicacer quelques ouvrages, du coup?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Et puis, je voulais précisons aussi que vos spectacles sont à destination des 2-8 ans. Hein.
Voilà, c'est ça, oui, c'est les tout petits, oui, tout à fait.
On va se retrouver dans un instant, toujours avec votre invité du jour sur IDFM Radio, Jean-Pierre Hidat, qui nous présente sa compagnie Trois Chardons, avec des spectacles aussi à découvrir à Paris, dans le 13e arrondissement, au sein du théâtre La Cachette.
J'ai attendu.
IDFM Radio vous présente la compagnie Trois Chardons avec Jean-Pierre Hidat, auteur et créateur de cette compagnie. Hein. Dans les années 70, vous faites toujours et encore des spectacles auprès des scolaires. Hein. Vous avez démarré comme ça et ça continue. Et maintenant, pour le grand public, hein, puisqu'on peut découvrir notamment actuellement à Paris, dans le 13e arrondissement, au sein du théâtre La Cachette, Lucine et Malo. Et après avoir vu l'un de vos nombreux spectacles, à la fin, le public peut se procurer un livre CD et repartir avec un joli petit souvenir.
Je dirais plus qu'un petit souvenir, ce qui nous revient par les parents, c'est que ce sont souvent des livres que les enfants réclament, et c'est des livres pour la fin de journée, avant d'aller se coucher, et les enfants le réclament de façon répétée, quoi, très longtemps.
Vous avez encore des parents qui découvrent uniquement vos livres, vos CD, et puis qui finalement s'aperçoivent que derrière il y a un spectacle.
Oui,
ou inversement.
Ou tout à fait. Et on a aussi beaucoup de parents et de grands-parents qui amènent leurs enfants ou leurs petits-enfants à La Cachette parce qu'ils ont vu le spectacle quand ils étaient eux-mêmes à La Cachette. Il y a donc 53 ans, le tout premier spectacle, et on a donc des parents et des grands-parents qui reviennent ravis de montrer à leurs enfants les spectacles qui leur ont plu également quand ils étaient enfants.
Ça représente combien d'histoires depuis que la compagnie Trois Chardons existe?
Donc le répertoire lui-même, c'est une vingtaine de titres, autant spectacle que livre. Voilà.
Et vous en rajoutez au fur et à mesure, il y a des nouveautés,
je pense
une à deux fois par an, comment ça fonctionne?
Je pense que, étant donné mon grand âge, maintenant, je pense que 20 spectacles et 20 livres, ça va, c'est bon, ça suffit.
Donc en fait, vous les faites tourner,
On les fait tourner
tout au long de l'année.
Voilà, disons que dans chaque cachette, dans chaque théâtre, on présente 4 spectacles par an. Un autour des vacances de la Toussaint, un autour des vacances de Noël, des vacances de février et des vacances de Pâques. Donc ça fait 4 spectacles par an. Et donc en 5 ans, un enfant peut avoir vu, s'il vient à tous les spectacles, il peut avoir vu la totalité du répertoire. Et au bout de 5 ans, le public a changé. Et donc ça fait maintenant, à Paris, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a ouvert. Et donc c'est le même répertoire qui revient tous les 5 ans, mais comme le public se renouvelle tous les 5 ans, il n'y a pas du tout de lassitude. Voilà.
Donc là, le spectacle que j'ai cité, Lucine et Malo, c'est une création de quelle année?
Je ne saurais pas vous dire de tête. Comme
Lucine
ça.
Et Malo, ça raconte l'histoire de quoi exactement?
Donc l'histoire d'une petite ondine qui est donc qui essaie de sortir du fond de la rivière un coffre de bois qui est enfoui dans la boue qui a noyé, qui a encombré le fond de la rivière. Et donc Malo va aider Lucine à sortir ce coffre qui est très difficile à sortir du fond de la rivière. Voilà.
Dans vos histoires, il y a autant d'humains que d'animaux?
Il y a pas mal d'animaux, mais il y a effectivement, la plupart du temps, il y a un humain, oui, souvent, oui.
Il y a presque toute la basse-cour, il y a une baleine, un ours, des dragons.
Il y a un peu de tout, oui.
Il y a un ours, Blouette et Ronchon. Ronchon, c'est l'ours, hein.
Ronchon, c'est l'ours. Il y a des personnages un peu fantastiques qui sont les bêta-têtes, donc les personnages du spectacle Le Petit Bois. Donc ce sont des grandes autruches avec 3 têtes différentes. Ça, c'est des personnages de création. Sinon, effectivement, oiseaux, baleines, chacals, lions, dragons et chamois. Voilà.
Le dernier livre, la dernière pièce, c'est laquelle?
C'est Gigot et le dragon, Donc c'est une pièce qui résume un peu la démarche des Chardons. C'est une petite fille qui veut absolument découvrir un dragon que l'on lui décrit comme étant très 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 féroce et qui veut dévorer les enfants qui rentrent dans sa forêt. Elle veut quand même le rencontrer. Elle le rencontre. Le dragon la menace de la dévorer. Elle lui dit, un peu comme dans Les Mille et Une Nuits, d'accord, mais je vais déjà te raconter une histoire. Donc elle lui raconte une histoire. Le dragon dit, oh, ça m'intéresse pas trop, mais bon, raconte-moi quand même une autre histoire, etc. Et la petite fille lui raconte une deuxième histoire, puis une troisième histoire. Et au bout du compte, le dragon finit par craquer et lui-même devient un dragon qui raconte des histoires aux enfants. Voilà.
C'est une entreprise familiale aussi, puisque votre fille travaille avec vous, Camille.
Oui, tout à fait.
Elle a rejoint le bateau en quelle année ?
Voilà, il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près. Elle s'occupe de la communication. Donc voilà.
Elle s'occupe donc d'envoyer des informations auprès des journalistes, auprès des médias, pour parler de la programmation du théâtre La Cachette et de vos livres CD aussi, qui sont édités par votre compagnie Trois Chardons. D'ailleurs, vous avez deux sites. Hein. Vous avez le site troischardons.com et lacachette.fr.
Oui, tout à fait.
Pour faire le distinguo entre le théâtre et la compagnie. On va retrouver à peu près les mêmes informations.
Ah bah, ils se croisent, ce sont deux sites qui se croisent, oui, tout à fait, oui.
Là, les prochaines représentations, donc j'ai parlé du personnage Lucine et Malo, mais très vite, on pourra découvrir l'arbre roux aussi de février à avril.
Voilà, c'est l'arbre roux, oui, tout à fait, maintenant, oui.
Donc, il y a aussi Leïla et la baleine, Chico, vous en avez créé des personnages, hein. Vous vous y retrouvez dans tout
fait,
ça?
Oui, je les retrouve, oui, quand même. Oui, oh, oui, ça fait bien 400 personnages en tout, quoi.
Et ils arrivent à tous rentrer dans le théâtre?
Ah bah, on a heureusement un grand espace. On a eu un local qui fait 1300 m² dans lequel on a nos bureaux, nos ateliers, les salles de répétition, la salle de spectacle, bien sûr, un joli hall. C'est un lieu très aménagé spécialement pour les enfants.
Et tous ces personnages, vous les avez plus ou moins créés en marionnettes. Comment elles prennent vie sur scène?
Alors, personnellement, donc j'invente le personnage, mais c'est pas moi qui leur donne la forme. Ça, je suis pas du tout décorateur, illustrateur ou autre. Ce sont des professionnels de l'illustration qui réalisent en même temps les personnages du livre et les esquisses des marionnettes que nous fabriquons nous-mêmes dans nos ateliers.
Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est à peu près de l'ensemble de l'équipe avec les comédiens, par année, c'est une quarantaine de personnes à peu près, quoi.
Et vous tournez donc sur les trois théâtres, hein, on le reprécise. Il y en a un à Paris, dans le 13e arrondissement, un autre donc à Nancy, et le troisième
à Nantes.
Et du coup, les spectacles tournent dans les différents théâtres. C'est les mêmes qu'à Paris ou pas?
Ah oui, tout à fait, oui.
Oui,
oui, ce sont les
de
mêmes.
De février à avril, l'Arbre Roux tournera dans les trois...
Théâtres en même temps. Il va tourner à Paris.
Il
va tourner uniquement à Paris.
Ah, d'accord, ok. Et dans les deux autres théâtres?
Alors, à Nancy, c'est Boubam et le Tam Tam. Et à Nantes, Petit Sapin, peut-être, ou qui va venir après.
Vous arrêtez jamais, en fait, vous courez. Même si vous écrivez plus aujourd'hui, mais il faut aller les gérer, quand même, ces théâtres. Faut mettre en place les comédiens aussi.
Ah bah, il y a des comédiens qui sont des anciens comédiens, disons, qui connaissent parfaitement les spectacles et qui forment les nouveaux comédiens qui vont jouer les spectacles, tout à fait.
Donc il faut courir entre les trois théâtres, il faut aller aussi à droite à gauche faire des représentations dans les écoles.
Voilà.
C'est une sacrée et belle équipe.
Ah, il y a c'est beaucoup d'organisation et oui, tout à fait. Oui,
vous êtes déjà venu ici sur le Val d'Oise faire des représentations?
Ah bien sûr, oui. Bon, on tourne dans toute la France, hein, partout. On tourne dans les dom-tom aussi, donc Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe, etc. Oui, on tourne partout.
Quelle est votre plus belle fierté parmi toutes les histoires, là? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous parle peut-être un peu plus qu'une autre?
Non, je peux pas. Je pense que chacune a sa particularité et son intérêt. Après, non, pour moi, tout. Jusqu'à présent, tout me plaît.
Quand vous écrivez Antoine et les étoiles, c'est un peu vous finalement, Antoine? qui rêve de découvrir
Antoine et les étoiles, c'est un moment où je m'étais installé très, de façon très provisoire dans une ancienne bergerie dans la Beauce, et là il y avait la possibilité le soir d'admirer ce ciel très très dégagé dans la Beauce, et c'est à partir de là que j'ai eu envie de monter un spectacle avec comme base les étoiles, quoi. Voilà.
Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui, Jean-Pierre Hidat, auteur et créateur de la compagnie Trois Chardons. On va écouter un extrait du CD Laïla et la baleine. Donc une petite fille qui va se lier d'amitié en quelque sorte à une baleine bleue.
Avec une baleine, voilà, tout à fait.
Elle va rencontrer aussi un pêcheur.
Alors il y a d'une part un vieux pêcheur qui
est pas très sympa.
Le vieux pêcheur, lui,
il est sympa.
Il a été sympa et il a été un vrai chasseur de baleines, et il a été charmé par le chant de la baleine en question, de la baleine bleue, et c'est à partir de là qu'il a arrêté de chasser les baleines. Mais il y a derrière un autre chasseur qui, lui, continue à chasser la baleine, et la petite fille va essayer de sauver la baleine des harpons du chasseur.
Voilà. Et ben merci
avec l'aide du vieux pêcheur.
Bravo pour votre travail, Jean-Pierre Hidat, créateur de la compagnie Trois Chardons. Vous avez un théâtre à Paris, je le reprécise, dans le 13e arrondissement. Le théâtre s'appelle La Cachette, et puis pour tout savoir, je le reprécise, troischardons.com ou encore lacachette.fr. Nous écoutons un extrait de l'histoire Laïla et la baleine sur IDFM Radio. Merci encore, à bientôt.
Merci de m'avoir invité.
De tous les chasseurs de baleines, il était le plus grand. De tous, le plus adroit et le plus courageux. Lorsqu'il partait en mer, aucune baleine jamais ne lui échappait, non, jamais. Jusqu'à ce jour de la fin d'un été, lorsque, tout seul et sans capture, au port, il est rentré. Il avait vu, dit-il, une baleine bleue. Il l'avait entendue qui chantait sur la mer. Le chant était si beau, la baleine si belle, qu'il n'avait pu lever ses harpons et frapper. Et depuis ce jour-là, jamais plus il ne chasse, car la baleine bleue, dit-il, est son ami. Et depuis ce jour-là, au village, on ricane. Personne ne le croit. On se moque de lui.